おかしいおかしい。
Bonsoir, soit un moment de la tribune de ce vendredi 19 novembre 2010, à savoir, dans un communiqué publié mardi dernier, l'ONG International Crisis Group affirme que les révolutions du conflit occupées par l'option militaire est un échec. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, le blocage persiste malgré l'arrêt de la Cour suprême de justice portant réhabilitation de Roger Nkindi au poste de président de cette institution. C'est notre deuxième terme, mais enfin désapprobation des compagnies aériennes internationales sur la taxe IDEF dans les billets d'avion. Trois confrères participent à ce débat. Joachim Diana, directeur des publications du journal Avenir, un quotidien qui paraît à Kinshasa. J.R. Mokolo, journaliste à Canal Congo Télévision, une télévision privée qui est née depuis Kinshasa. Et Martial Papi Moukeba, journaliste et chef de programme de la radio-télévision Mungano de Beni ou Nord Kivu. Bienvenue à tous dans cette émission. Un rapport de International Crisis Group, blocage persistant à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et désapprobation des compagnies aériennes internationales sur la taxe IDEF dans les billets d'avion sont les thèmes que nous avons retenus pour vous ce soir. Voyons comment la presse écrite chinoise a analysé ce thème, la revue de presse avec Samuel Kachak.
Bonsoir. Plusieurs sujets ont été abordés par la presse parue cette semaine à Kinshasa. Le potentiel fait écho des nouvelles révélations d'International Crisis Group sur la paix en RDC. Et pour cette ONG internationale, les opérations conjointes entre la RDC et le Rwanda sont un échec. Selon ce journal, la paix au Kivu est toujours hypothétique. Et à Crisis Group de rajouter que le rapprochement entre les armées de la RDC et du Rwanda dans la traque des FDLR n'a pas résolu le problème. Sur un autre registre, le phare a titré « Situation à la RVA, Mabunda sous le feu croisé des sénateurs ». Selon ce quotidien, la ministre du portefeuille s'est présentée mercredi 7 novembre devant la plénière du Sénat pour répondre à la question orale du sénateur Moïse Nyarugabo sur la situation qui prévaut à la RVA, notamment les relations entre l'ADG Jean Assise et le conseil d'administration, le contrat RVA ADPI pour la réhabilitation de la piste de l'aéroport de Njili et le coût exorbitant du pavillon présidentiel de cet aéroport. À toutes les préoccupations, la ministre a tenté de donner des explications qui ont laissé les sénateurs non satisfaits selon le phare. Ces derniers ont donc accordé à la ministre 8 jours pour qu'elle apporte un nouvel éclairage. Terminons cette revue de la presse avec l'annulation de la dette de la RDC par le club de Paris. La prospérité annonce à la une, allègement de la dette de la RDC, club de Paris, 7 milliards 35 millions de dollars effacés. En croit ce journal, cette décision fait suite à l'atteinte par la RDC du point d'achèvement de l'initiative EPTE renforcée le 1er juillet 2010. Cependant, le club de Paris exprime sa préoccupation quant à l'amélioration du climat des affaires et demande à la RDC de procéder à de nouvelles réformes pour améliorer la gouvernance, la primauté du droit et la lutte contre la corruption, conditions nécessaires à un développement durable après l'initiative PPTE.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Joachim Den, directeur de publication du journal Avenir, un quotidien qui paraît à Kinshasa comme c'est l'habitude. Hein. Donc, dans cette émission, on va faire un petit commentaire sur la revue de presse que nous venons de suivre. Un mot à dire par rapport à cela.
Oui, la revue de la presse a essayé d'embrasser les différents sujets qui ont défrayé la chronique. J'aimerais tout simplement préciser en ce qui concerne les opérations, donc selon le rapport de CISECO, il ne s'agissait pas des opérations entre l'armée congolaise et l'armée royale, mais des opérations tout court, qui sont les différentes opérations à Mani. Donc toutes ces opérations, selon cette ONG, sont un échec, donc il faut abandonner. Donc voilà, c'est la question de l'ouvrir la porte.
Hier, Mokolo, journaliste à Canal Congo Télévision, une télévision privée, qui est née depuis Kinshasa, votre commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons de suivre.
Je note que cette revue de presse, en tout cas, a pratiquement balayé toute l'actualité de la semaine, mais je voudrais préciser qu'il faut rappeler, par exemple, l'érosion qui a coupé en deux la route de Kimwenza au niveau du campus de la clinique universitaire de Kinshasa, ce qui fait que les gens ont des difficultés pour pouvoir passer là-bas. Et je noterai aussi, je veux relever ce qui s'est passé sur la route de Bandundu avec un accident de circulation avec une centaine de morts. Une fois de plus, c'est la surcharge était à la base, en tout cas, de cet accident. Et apparemment, au Congo, on est toujours en train de leçons de ce qui se passe. Il peut y avoir un accident de bateau à cause des surcharges. On a passé le moment de l'émotion. On revient en tout cas à nos vieilles habitudes et c'est dommage.
Merci, J.R. Mokolo, Martial Papi Moukeba. Vous êtes journaliste chef de programme de la radio-télévision Mungano de Beni au Nord Kivu. Présentement, vous êtes à Kinshasa. Qu'est-ce qui fait l'actualité dans la province du Nord Kivu aujourd'hui?
Aujourd'hui, si on peut dire, l'actualité est dominée par l'insécurité dans toute la province du Nord Kivu. D'abord avec la traque des FRDC contre les rebelles ougandais et des Finalou dans les grands nord, dans les territoires de Beni précisément. Mais les cas aussi d'assassinats qui continue d'être signalé dans plusieurs villes, dans la ville de Beni, de Bitengo, où les populations civiles sont tuées par des hommes armés, quelquefois aussi en tenue militaire, non autrement identifiés, selon le vocabulaire le plus souvent utilisé, et qui ne sont pas souvent aussi arrêtés par les éléments de l'ordre. Donc c'est un problème de sécurité, qui est à la ligne dans la province du Nord Kivu.
Merci, Martial Moukeba. Avant d'aborder les termes prévus pour ce soir, actualité oblige, on va faire un petit commentaire encore une fois sur l'annulation de la dette de la RDC par le club de Paris. Joachim Diana, 7,35 milliards de dollars effacés. Une bonne nouvelle pour le gouvernement congolais, je dirais même un soulagement pour Kinshasa.
Tout à fait, un soulagement lorsqu'on sait que c'est une longue course qui s'arrête. Et les Congolais ont souvent la courte mémoire que c'est depuis l'époque du comité central du MPR avec Kengo Dende comme premier ministre que la RDC courait pour atteindre cet objectif afin de voir alléger sa dette qui n'était pas encore de 13 milliards comme c'était le cas dernièrement. Mais il fallait tellement de la rigueur que M. Kengo Dende a été qualifié de monsieur de la rigueur et finalement le comité central en avait marre, a dit on ne mange pas la rigueur et on a tout abandonné. Et il a fallu attendre 2001 pour qu'on reprenne les opérations, pour qu'en 2003, on atteigne le point de décision. Et arrivé en 2006, le PEG, la gestion du PEG n'a pas donné satisfaction et il a fallu reprendre en 2007. Et que voilà, maintenant, le pays arrive. Vraiment, c'est une grande satisfaction lorsqu'on doit se débarrasser d'une dette odieuse qui n'aura servi à rien.
Guillaume Mokolo, on se rappellera qu'il y a deux mois, Charles Michel, ministre belge à la coopération et au développement, avait lâché que le club de Paris n'était pas chaud pour effacer au cours de cette année 2010 la dette de la RDC. Le club justifiait cette décision par le mauvais climat des affaires en RDC et la mauvaise gouvernance économique et le flou qui continuait de planer sur les contrats miniers pétroliers. Le club avait-il raison de ne pas vouloir effacer la dette de la RDC?
Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt dans cette histoire-là. Peut-être que le contrat que nous avons signé par rapport avec la Chine, en tout cas, ne plaît pas à beaucoup de partenaires occidentaux et qu'ils veulent à tout prix en tout cas nous coincer. Bon, revenant en tout cas sur cette annulation, j'ai aimé votre expression, ce soulagement. Nous ne pouvons pas crier victoire parce que si nous étions capables de payer ces dettes-là, ça fait au moins que nous allions en tout cas dire que c'était une performance. Donc, pratiquement, les gens nous ont pris en pitié. Et ils ont effacé cette dette-là, et que c'est un soulagement, mais pas une raison pour pouvoir festoyer, dire que voilà, nous avons fait des efforts, tout ça, parce que les dieux restent à faire. Il ne faut pas qu'on dise aux gens qu'après le point, l'atteinte du point d'achèvement, ce serait le paradis au Congo.
Martial Moukeba, le club de Paris exprime sa préoccupation malgré l'effacement de la dette quant à l'amélioration du climat des affaires et demande à la RDC de procéder à de nouvelles réformes pour améliorer la gouvernance, la primauté du droit et la lutte contre la corruption, conditions nécessaires pour un développement durable.
Le club de Paris a raison de dire tout ça. Et je vais d'ailleurs me référer aux déclarations du ministre des Finances de la RDC, son Excellence, M. Matata Ponyo, qui a déclaré que l'annulation de la dette ne va pas avoir un impact direct dans la casserole de tout le monde, et que cette annulation donne davantage de moyens au gouvernement d'avoir une marge de manœuvre supplémentaire à une bonne gestion politique sociale. Est-ce qu'on va arriver à cette bonne gestion politique et sociale lorsque le gouvernement congolais a des difficultés de respecter l'exécution du budget d'abord de l'État? qui est voté au Parlement. Ça d'abord c'est un problème. On a promis à tous les Congolais qu'il faudra attendre que cela soit effacé, les choses vont s'améliorer. La RDC était endettée de plusieurs milliards de dollars et voilà que c'est effacé. Mais si cela sert aux gens qui sont au pouvoir, si ça leur donne plus de moyens de garder soit leurs votes, soit de faire leurs affaires, soit de faire leur politique, et que ça ne sert pas les Congolais, si cela ne profite pas aux Congolais, ça c'est bien un problème. Voilà pourquoi, pour en arriver, il faut la lutte contre la corruption, il faut la bonne gouvernance, il faut la lutte contre l'impunité, et qu'il y ait la bonne gestion de la chose publique de l'État.
Merci Martial Moukeba, premier terme de ce soir. International Courageux Group, qui est le chef de stratégie mené par la RDC et le Rwanda depuis 2 ans. La résolution du conflit au Kivu par l'option militaire est un échec, chef du International Courageux Group, dans un rapport publié mardi soir. Cette ONG spécialisée dans la prévention des conflits estime que les 2 ans de rapprochement entre Joseph Kabila et Paul Kagame n'ont pas donné des résultats attendus. Les soldats gouvernementaux sont encore aux prises avec des miliciens pour les contrôles des terres et des zones minières. En même temps, les civils subissent des violences extrêmes et la situation humanitaire se détériore, estime International Crisis Group. L'ONG recommande au gouvernement de la RDC, à la MONUSCO et aux autres partenaires internationaux de suspendre les opérations militaires offensives au Kivu, et cela en attendant le déploiement des troupes bien entraînées. On écoute Thierry Birkoulon, directeur de l'ICG pour l'Afrique centrale, au micro de Georges Kamoudjova.
Oui, tout à fait. Il faudrait qu'il y ait une décompression militaire dans le Kivu et que les bataillons de l'armée congolaise qui ont été entraînés par les Américains, les Belges et d'autres partenaires remplacent un certain nombre de troupes qui sont dans les Kivu. International Crisis Group surtout recommande que l'option militaire qui est menée actuellement soit accompagnée d'un vrai règlement politique.
Alors, le rapprochement qu'il y a eu entre Kigali et Kinshasa, beaucoup estiment que c'est déjà une solution.
Le dialogue est extrêmement important entre les deux capitales. Il faut que ce dialogue ne sacrifie pas les intérêts des communautés au Kivu. Il est extrêmement important qu'il y ait un règlement politique satisfaisant pour toutes les communautés du Kivu et non pas un règlement partiel qui est fait plus ou moins secrètement et qui avantage certaines communautés par rapport à d'autres.
J.R. Mokolo, vous êtes journaliste à Canal Congo Télévision, une télévision privée qui est née depuis Kinshasa. Comment vous analysez ce nouveau rapport de Crisis Group qui est pris à l'échec des stratégies menées par la RDC et le Rwanda pour rétablir la paix dans l'Est de la RDC?
Bon, je voudrais tout simplement rappeler que Crisis Group, en tout cas, fait des rapports des fois qui nous permettent de pouvoir analyser la situation dans notre pays. C'est un peu comme un thermomètre, quoi, qui nous indique que nous avons la fièvre. Mais je dirais que attendre à ce que, par exemple, on puisse déployer des bataillons qui seraient formés par les Chinois, les Américains, les Angolais, tout ça, il y aura un vide, en tout cas sur le terrain. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Donc, quand ce groupe est en train, en tout cas, de se contredire, une chose, c'est que ce groupe estime qu'il faut arrêter les opérations militaires et on dit non, il faut attendre les bataillons qui seraient formés par les Américains pour il y aura un vide. Mais je voudrais un peu revenir en arrière pour pouvoir expliquer très bien ce qui se passe à l'est du pays. Le Rwanda n'est pas venu au Congo seulement avec l'accord de Joseph Kabila dernièrement. Le Rwanda est au Congo pratiquement avec la FDL. Et ensuite, c'était avec la RCD. Et le Rwanda qui vient au Congo, ce n'est pas pour des intérêts du Congo. C'est pour ses propres intérêts, c'est pour chasser les Hutus rwandais, en fait, qui menacent le pouvoir de Paul Kagame. Donc, c'est déjà un problème. Le Rwanda qui a fait pratiquement 10 ans au Congo, en train de gérer avec l'AFDL, avec le RCD, cette partie du territoire congolais, n'a pas trouvé une solution à ces FDLR-là. Mais aujourd'hui, le Rwanda qui revient, il dit, voilà, vous acceptez que je vienne, je vais vous accompagner pour pouvoir neutraliser ces FDLR-là qui menacent ma sécurité. À ce moment-là, moi, je vous laisse tranquille. Donc, c'est tout à fait compliqué parce qu'il y a des populations qui sont à l'est du pays qui ont des très, très mauvais souvenirs de la présence du Rwanda avec de mauvais traitements et qui n'acceptent pas le fait qu'on puisse en tout cas faire entrer des troupes rwandaises au Congo. Donc, moi, j'estime que nous ne devons pas compter sur les étrangers pour assurer la sécurité de notre territoire. Notre ami de Béni nous a révélé aujourd'hui qu'il y a encore des cas d'insécurité à l'Est. Donc, ce que Francis Brooke dit n'est pas totalement faux. Il y a une part de vérité. Il va falloir que ceux qui dirigent le pays puissent en tout cas tenir compte de ces rapports et voir ce qui est bon.
Il y a une part de vérité, c'est-à-dire il y a quand même un échec par rapport à toutes les opérations qui ont eu lieu à l'Est pour établir la paix.
Parce que moi, je ne pense pas qu'on peut résoudre un problème seulement militairement. Je ne crois pas. Et la meilleure façon de pouvoir trouver une solution au problème FDLR, il faut que le gouvernement rwandais puisse en tout cas trouver un modus vivendi, parler avec ses opposants, armés ou non armés. Croire qu'on va comme ça transformer le territoire congolais en terrain de la confrontation entre le gouvernement rwandais et ses rebelles, indéfiniment, on ne trouvera pas de solution.
Joachim Djana, l'approche militaire n'est pas la seule solution pour rétablir la paix à l'Est.
Je ne suis pas de cet avis-là. Bien que le confrère a dit beaucoup de choses au point de nous éloigner un peu de sujet, mais j'aimerais dire ceci avant de répéter pour dire que l'approche militaire n'est pas la première. Vous vous souviendrez que le rôle de la MONUC à l'époque, c'était de rapatrier les FDLR et un rapatriement volontaire. Il a fallu des années depuis que la MONUC est arrivée en 1999. On a commencé, on a vu que le rythme des FDLR de rentrer chez eux était tellement lent, pratiquement inexistant. Ils ont commencé à construire des universités, ils ont commencé à construire des usines sur le territoire congolais, des camps d'entraînement. Et pendant ce temps, Kigali estimait que c'était un danger pour lui. Il a commencé à nous faire la guerre. Il fait la guerre pour qu'il y ait ses bases avancées à travers le RCD, afin de contrôler que les FDLR ne puissent pas l'attaquer. L'approche militaire actuelle est à partir du protocole de Nairobi. Ça ne fait pas longtemps. Je tenais par créer ce groupe qui dit qu'il faut arrêter. C'est comme s'il demanderait que l'opération militaire en Afghanistan, c'est un échec parce qu'il y a des gens qui meurent, il y a des attentats, alors on doit abandonner. Et on doit faire partie les Américains, je ne sais pas pour la mais ce sont les troupes les mieux entraînées de tous les Occidentaux. Je ne demande pas tous ceux qui sont en Afghanistan et qui étaient en Irak, s'il y en a d'autres encore qui sont les mieux entraînés. Et d'abord, qui n'accepteraient pas de venir parce qu'ils étaient au Rwanda, mais ils ont refusé de venir dans la Monique, au Congo. Vous n'allez pas dire qu'on doit abandonner parce qu'il y a de tel ou tel incident. Je pense que l'opération.
Il faut continuer avec l'opération militaire.
Il faut continuer avec l'opération militaire. Ce n'est pas maintenant qu'on doit abandonner lorsque lui-même reconnaît dans le rapport que beaucoup de bases des FDLR ont été occupées. C'est peut-être que le combat change de forme et il faut maintenant s'attaquer à la guérilla et que maintenant qu'il y a alliance entre parfois les FDLR et les Maïmaï locales. Les FDLR mettent un coup de bouteille dehors. S'il y a une négociation, ils vont aller négocier chez eux.
Mais déjà, il y a eu plusieurs opérations à Manila, Kinyadjon, et ça a abouti à quoi?
Mais tout à fait. Mais aujourd'hui, je pense que la situation n'est plus la même qu'avant. Même si elle n'a pas encore avancé, il y a encore, on doit encore déplorer des morts, mais la situation n'est pas la même, elle n'est pas stationnaire. Dire qu'elle est stationnaire, c'est parler d'un verre vide, alors que le verre est à moitié plein. Donc, je voulais tout simplement ajouter que les opérations militaires actuelles sont une nécessité parce que on ne peut pas négocier avec les FDLR et on ne peut pas imposer au Rwanda une politique qui n'est pas la sienne. Nous, on a négocié avec le RCD, le MRC, le consort. Tout au Rwanda, si le Rwanda ne trouve pas le RCD, c'est à nous à bouter. Et la Monique dit toujours la sécurité, c'est le problème de la RDC. Voilà, curieusement, les hommes qui appuient toujours ce que dit la Monique aujourd'hui, ils voudraient que les troupes congolaises se retirent et que la Monique se. Et du même côté, ils estiment que la Monique n'a pas de troupes bien entraînées. C'est vraiment ce rapport, mais l'une et l'autre, qui ne dit pas quelque chose de clair.
Merci, Joachim. Martial Papi Moukeba, vous êtes journaliste et chef du programme de la radio-télévision Mongano de Béni au Nord Kivu. Faut-il suspendre aujourd'hui l'approche militaire dans les Kivu pour rétablir la paix?
Je ne suis pas d'accord dans ce cadre-là avec International Crisis Group. Et ce que je regrette, c'est que la plupart de ces organisations internationales réclamaient depuis plusieurs années qu'il y ait approche diplomatique entre Kinshasa et Kigali, qu'il y ait approche diplomatique entre Kabila et Kagame. Et s'il y a échec de ces opérations, c'est au sol des Kabila et des Kagame seulement. Je vais donner quelques précisions. Ce n'est pas important d'arrêter les opérations militaires en Nord-Kivu. Mais il y a des choses qui doivent être améliorées. On parle des militaires qui ne sont pas bien entraînés. Ça, c'est vrai. Les FRDC ne sont pas bien entraînés face à la puissance des plusieurs groupes armés étrangers et locaux. Ça d'abord, c'est la première question. Et la seconde, ce que je vais dire, mais est-ce que les FARDC qui sont sur terrain sont bien équipés et bien liés pour désarmer les FDLR? Moi, je dis ceci, que la situation au Nord Kivu est complexe. Il ne s'agit pas seulement de la question des FDLR, des Mai Mai, ou des AED final, où il y a des ex-CNDP. Vous avez vu récemment, avec des militaires ex-CNDP qui ont refusé d'être déployés en dehors des provinces du Nord et du Sud Kivu. Et quelquefois, si vous analysez dans les FDLR, je veux bien qu'on les dise tout haut, au lieu de les dire par une voix acerbe. Il y a des généraux qui sont des généraux sans troupes, il y a des colonels sans troupes, il y a des commandants des bataillons et des brigades sans troupes. J'ai dit sans troupes pourquoi? Parce qu'ils sont généraux de brigade, mais ils ne donnent pas des ordres à leurs troupes. Quand ils donnent des ordres, les ordres ne sont pas respectés. On peut imiter tel militaire dans telle localité, il refuse. Ce militaire-là sert sa colline ou sa province. Et si vous demandez à ce militaire-là d'aller se battre contre le FDLR, des FDLR qui maîtrisent bien la forêt, les parcs, les montagnes, la région, depuis plusieurs années, ça sera difficile que ces militaires-là puissent en sortir, des militaires qui ont été formés, mixés pendant des mois, six mois ou quatre mois. Je suis d'accord qu'on forme les FRDC, mais les militaires et les opérations ne doivent pas être arrêtés. Mais aussi pour résoudre cette crise, il faut aussi préciser qu'il faut associer des leaders politiques de l'Est. Parce qu'il y a des anciens chefs rebelles qui ont géré la crise des FDLR pendant la rébellion. Tout à préciser que le problème FDLR n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. C'est un problème qui date de l'époque de Mobutu, de l'époque de Laurent Désiré Kabila, de l'époque de la transition et aujourd'hui après les élections. Le FDLR existe toujours. Mais il y a déjà des politiciens dans ces pays qui ont géré ces pays. Il faut faire l'approche diplomatique. Il faut associer les chefs plutôt les leaders politiques locaux et plusieurs comités pour résoudre cette crise.
On retient, Marcel, qu'il faut associer l'approche diplomatique et militaire pour résoudre ce problème de l'Est de la RDC.
Oui, mais
la conférence arrive.
C'est ça, il voudrait qu'on associe tout le monde. C'est une bonne idée, c'est super. Mais n'oublions pas qu'il y a eu à grands frais la conférence de Goma et que les gens qui ont leurs intérêts ailleurs que dans la solution au problème. Ils ont repris la guerre a repris le plus bel après la conférence de Goma.
Je voulais donner une précision ici par rapport
à la conférence. Pratiquement en un mot, parce qu'on va pas se détendre.
Nous avons pris part à cette conférence, mais il faut aussi reconnaître que pendant cette conférence, il y a des groupes armés qui étaient plus considérés que d'autres groupes armés. Il faut les reconnaître. Il y a les CNDP qui étaient mis au premier plan. On voulait plus écouter les revendications du CNDP. Et il faut aussi reconnaître que cette conférence, c'était comme une stratégie de négocier avec les CNDP en associant d'autres groupes armés. D'autres groupes armés avaient accompagné les CNDP et d'autres groupes armés avaient accompagné les CNDP dans cette conférence, dans cette négociation. Mais aujourd'hui, si on associe tout le monde, voilà que les CNDP n'existaient pas. Les CNDP a défi, les CNDP avaient relancé la guerre. Si on associe tout le monde, on écoute
merci
tout le monde, et qu'on prend tous les groupes armés au même plan.
Voilà, je vais essayer Marcel, j'ai un mot parce qu'on doit passer au deuxième thème.
Je voudrais un peu revenir sur ce que les constats.
Vous allez vous résumer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Le Goma a dit à propos de notre armée, si nous avons une armée faible, c'est parce que les gens ont considéré que quand un régime passe, l'armée qui était là, c'est l'armée de ce régime-là et qu'il faut vraiment pratiquement faire table rasa. Et je voudrais préciser qu'on ne change pas d'armée comme on change sa garde-robe.
Merci, J.R. Mokolo. Rendons-nous à l'Assemblée provinciale du Kinshasa pour parler du blocage qui persiste au sein de cette institution provinciale malgré l'arrêt de la Cour suprême de justice portant réhabilitation de Roger Ntsingui au poste de président de cette institution. L'ultimatum de 48 heures accordé au président de l'Assemblée provinciale a expiré depuis le vendredi 12 novembre dernier. Roger Ntsingui devait convoquer une session extraordinaire afin de permettre à l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa d'épurer poser des points aux souffrances de la session de juillet. C'est Yves Molima qui a suivi pour nous ce dossier depuis le début de la crise Novembre Plus.
Il y a une chose qu'il faut souligner pour ressortir le nœud du problème dans le blocage qui persiste au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il y a la question de l'inconstitutionnalité déclarée par la Cour suprême de justice dans l'arrêt rendu le 26 octobre dernier, ce qui, quelque part, a réhabilité Roger Fungi de sa fonction de président. À ce niveau, les députés n'ont plus une autre manœuvre si ce n'est se plier à l'arrêt de la Cour, ce qui était fait. Seulement, le nœud du problème, c'est la suite. Les députés ont l'obligation de se conformer à leur mission constitutionnelle et réglementaire, c'est-à-dire terminer la session budgétaire en votant le budget 2011 de la ville-province de Kinshasa. Il faut donc une session extraordinaire qui doit en principe être convoquée par le président qui se trouve être Roger Fungi. Une lettre de demande d'une session plénière a d'ailleurs été déjà déposée sur la table du président Fungi et dans cette lettre, on peut lire, deux points sont inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'examen et l'adoption du projet de budget exercice 2011 de la ville-province de Kinshasa et la déclaration de déchéance du président Roger Fungi. Et voilà où se trouve le blocage. Roger Fungi doit convoquer une session extraordinaire qui doit en plus du budget traiter de sa déchéance, ce qui ne semble pas être facile.
Merci Jacques-Yves Molima, Joachim Jana. La Cour suprême a rendu son arrêt, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été réhabilité, mais le blocage persiste. Comment on peut comprendre cela?
Le blocage est visiblement entretenu. J'ai l'impression que même tous les députés ne veulent pas reprendre du service. Et c'est comme si vous dites à quelqu'un, convoque une réunion, au cours de cette réunion, je vais te défenestrer, je vais te tuer. Mais pourquoi ne pas y aller? C'est ça qu'on a toujours reproché à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cette Assemblée provinciale qui a la majorité, qui avait toutes les possibilités juridiques, tout dans leur marche, de faire partir en président s'ils le voulaient. Ils ont préféré en bras de fer, dans une espèce de théâtralisation. Et voilà, on en est arrivé. On savait que ça sera une course en avant, juste un cul de sac. Et voilà, ils sont revenus à la Cour suprême de justice. Mais pour le moment, je pense que, ou alors ils disent que nous allons en session. Et qui doit convoquer cette session? C'est le président. C'est le président qui doit en sentir le besoin. Et il y a la session ordinaire à un sujet à l'ordre du jour qui est discuté avec le président de groupe parlementaire. Alors, mais comment avant même que on se soit mis d'accord pour qu'on se retrouve et qu'on puisse convoquer cette session et qu'on puisse discuter l'ordre du jour, les députés, je ne sais pas de quel droit lui écrivent et lui précisent l'ordre du jour.
Mais est-ce que c'est une raison pour qu'il ne convoque pas la plénière?
Mais la raison, c'est de
s'assumer, il est président de l'Assemblée nationale.
Tout à fait. Tout dépend maintenant lorsque, voyez qu'à l'Assemblée nationale. Il y a la majorité qui avait toute la possibilité de faire partir le président Vital Kamerhe. Ils ont utilisé la première procédure, de l'entendre d'abord dans son parti et puis dans la famille politique. Bon, ils ont senti qu'il y avait résistance. Alors maintenant, ils sont allés à l'Assemblée provinciale. Il n'a pas voulu de lui dire, je ne démissionnerai que devant la plénière. Les gens, peut-être, craignant le vote, on a dit, alors, pour le pousser à partir, et tous les bureaux démissionnent, parce que la loi dit que si tous les bureaux n'est pas là, lui aussi n'a plus de raison d'être. Voilà comment les autres utilisent des stratégies. On voudrait utiliser le frontal avec M. Singh, qui pourtant est vulnérable. Ils peuvent le faire partir par des manières beaucoup plus normales. C'est comme si les députés ont peur que si Singh reste encore, même un mois, c'est la fin du monde. Non, ils peuvent même y aller maligne. Pourquoi ne pas attendre même que la session sera bien, qu'on commence la session ordinaire? Parce que la session ordinaire, ils ont beaucoup plus de manœuvres. Pourquoi quelqu'un qui se sent un peu humilié, le fait que la Cour suprême de justice c'est arrêt, mais si vous pourrez, c'est une humiliation. Il faut tout de suite après régler des comptes. On ne règle pas les affaires de l'État avec de l'amour propre, avec une vengeance. La vengeance, on dit d'ailleurs que la meilleure vengeance, c'est celle qui se consomme fort.
Monsieur Mokolo, comment vous analysez ce blocage à l'Assemblée provinciale de Kinshasa?
En tout cas, on pouvait s'attendre à ce blocage-là, tout simplement parce que le problème de Tsingy, c'est un problème politique. C'est pas un politique, c'est un problème juridique. Donc, c'est politiquement, ceux qui avaient, en tout cas, choisi Tsingy, ont estimé qu'ils n'ont plus confiance en Tsingy, et ils veulent en tout cas le faire partir. Mais le problème, c'est que Tsingy ne peut pas se faire raquérir, comme l'a dit le confrère Diana. Donc, Ndjingi, c'est un politicien congolais. Vous savez, au Congo, les gens viennent en politique souvent pour résoudre les problèmes de chômage, trouver de l'emploi. Il a trouvé là un emploi qui le paye très bien. Et je ne pense pas qu'il est prêt, en tout cas, à pouvoir abandonner ce poste-là. Apparemment aussi, il doit avoir du soutien dans certains cercles du pouvoir, parce que nous avons vu, par exemple, des situations similaires dans le Bas-Congo, où le président Kimasi avait été défenestré de façon irrégulière aussi, et il a posé des problèmes au niveau des cours des tribunaux, mais jusqu'à maintenant, on n'y a pas répondu. À l'Équateur, par exemple, nous avons vu les députés provinciaux faire pratiquement du Kuluna. Ils ont cassé, ils sont entrés par effraction dans les sièges de l'Assemblée provinciale et ils ont installé, voté un nouveau président et la vie continue là-bas. Donc, à qui fait ça? C'est tout simplement parce que, comme c'est un chef de l'opposition, bon, on estime que Ndjingi est devenu un allié, on ne peut pas les lâcher. Et je me dis aussi que c'est la faute au MRC. MRC, pourquoi? Parce que, comme l'a dit le vieux Diana, vous savez, le cas de Vital Kamerhe, à l'AMP, il y a une autorité morale, et qui, comme ça, les gens se réunissent, ils donnent quand même, ils prennent une décision, et tout le monde obtempère. Mais au niveau de l'opposition, apparemment, on est en face à des députés qui n'obéissent pas à leur hiérarchie. Parce que le départ d'Ndjingi n'a pas été demandé par le staff dirigeant du MLC. Ce staff-là a été pris pratiquement en dépourvu, a été mis devant un fait accompli. On a vu le député Marcel Dangabe. Il allait de manière assez brutale. Par exemple, Ndjingi, qui était invité sur une chaîne de la place, et on a vu en direct à la télé, pratiquement, Ganga l'agresser. Et ce qui fait que Ndjingi, c'est un homme qui a un cœur, par amour propre, il dit, bon, vous voulez ma tête, moi je vais la vendre très cher, voilà la situation.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour détenter la situation? Parce que là, le budget de la ville-province de Kinshasa n'a pas encore été voté, et la session a déjà pris fin, il faudra convoquer une autre session, une session extraordinaire, au cours de laquelle le budget sera jugé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour détenter cette situation?
Bon, j'ai appris quelque part que ce budget-là avait déjà été transmis au gouvernement, par, je crois, le gouvernement provincial, donc le grand du budget, c'est le plus important parce que c'est le budget David de Kinshasa, se trouve déjà dans le budget global de la République. Bon, la solution, moi je ne crois pas qu'il y aura une session extraordinaire. Comme l'a dit le confrère Diana, Ndjingi ne va pas convoquer une plénière qui a entre autres comme ordre du jour le fait qu'on puisse lui couper la tête. Ça, c'est pas acquis. Mais on attendra peut-être la session ordinaire, mais c'est à ce moment-là que la. En tout cas, la carrière d'Ndjingi pourra se jouer parce que cette majorité-là ne va pas accepter de pouvoir se réconcilier avec Ndjingi. Donc, qu'il veut ou pas, il va partir. Mais la meilleure façon de détenter cette situation, c'est Ndjingi de comprendre que je ne suis pas né, je ne suis pas né président de l'Assemblée provinciale. Je le suis devenu, quand même, il n'était pas non plus né président de l'Assemblée nationale. Il a quitté, et même au sein de l'Assemblée provinciale, Henri Toka, il était rapporteur. On l'a mis de côté, sportivement, il a accepté. Ndjingi accepte de démissionner aujourd'hui, demain après demain, c'est ça la solution. Merci. En dehors de ça, le blocage risque en tout cas de persister et qu'on pourra assister à la dissolution de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
Merci, J.R. Mokolo, Martial, Fati Moukeba. Beaucoup d'observateurs se plaignent du fonctionnement quand même de nos assemblées provinciales. Pour ces observateurs, les députés provinciaux travaillent beaucoup plus pour leurs intérêts que pour l'intérêt de la population.
C'est vrai. D'ailleurs, moi, j'ai suis un peu frustré là, par l'attitude de la plupart des députés provinciaux de la République démocratique du Congo. Si vous voyez, depuis les débuts de la législature jusqu'aujourd'hui, ces députés, en analysant leur bilan législatif, j'ai pas des députés provinciaux, pas des députés nationaux, et il est presque vide. Mais ils sont devenus des acteurs principaux dans la traque des gouverneurs de province, des vice-gouverneurs, des membres du bureau des assemblées provinciales. Et lorsqu'ils engagent des bras de fer, c'est pour des raisons ça, des détournements d'argent ou mauvaise gestion. Il est rare d'écouter que tel a été poursuivi pour corruption ou mauvaise gouvernance, soit violation de telle loi. Mais au-delà de cela, je vais poser aussi la question. Pourquoi que lorsqu'à tout moment il y a des problèmes entre les députés provinciaux et les gouverneurs de province, soit les députés provinciaux et les bureaux des assemblées provinciales, il y a toujours interférence des ministres, des intérieurs, soit du parquet général de la République, on ne veut pas laisser en plénière aux députés de décider à toute souveraineté. Et moi, je me dis que pour la solution de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a deux hypothèses. Soit Roger Singhi, tant convoqué, une plénière et il doit inscrire à l'ordre du jour sa démission, soit lui-même il démissionne. Parce qu'on est déjà au niveau de la Cour suprême de justice.
Rappelez-vous, Martial ?
Oui, la Cour suprême de justice a publié un arrêt. Et les députés refusent de signer à la position de la Cour suprême de justice. Donc, les pas de fer continuent. Après la Cour suprême de justice, qui va se prononcer sur la crise ? C'est la question que je me pose. Après la justice, qui se prononcera sur la crise ? Qui prendra position en faveur de Roger Singhi ?
Merci Martial Moukeba, dernier terme de ce soir, des approbations des compagnies aériennes internationales sur la taxe IDEF dans les billets d'avion. C'est notre dernier terme de ce soir. À Kinshasa, tous les vols internationaux ont été retardés d'au moins 30 minutes le week-end dernier à l'aéroport d'Entebbe. Retard imposé expressement selon les compagnies aériennes par la régie de voies aériennes RVA pour les contraindre à incorporer la taxe IDEF dans les billets d'avion. Du côté de la RVA, on estime que les compagnies aériennes subissent les conséquences de leur propre turpitude. Ces compagnies ne veulent pas respecter les consignes du gouvernement d'incorporer la taxe IDEF dans les billets d'avion. On écoute Jean Assis, administrateur directeur général de la RVA, qui va au téléphone par Renonçon Olinga.
Les retards sont dus entièrement aux compagnies aériennes et à leur volonté délibérée de ne pas respecter les consignes du gouvernement. Cela fait plusieurs mois qu'on leur a demandé d'inclure l'IDEF dans le billet d'avion, ce que tous les passagers veulent, ce que tout le monde veut, et ces compagnies, sans aucune raison, décident de ne pas respecter cette instruction. Donc la RVA prend les mesures nécessaires pour que ces instructions qui sont dans l'intérêt de la nation soient respectées.
Mais il semble qu'au niveau du ministère de l'économie, une décision avait été prise de ce soir. Votre décision
économie. Non. Il y a eu un directeur de cabinet, je crois que c'était directeur de cabinet des transports, qui avait outrepassé ses droits et envoyé une lettre à la RVA, mais je pense qu'il ne peut pas être aussi le Premier ministre. Lorsque son excellence, Monsieur le Premier ministre, instruit de monter l'IDEF dans le billet d'avion, je ne pense pas qu'il a frappé à qui que ce soit de refuser.
Voilà, je vais vous demander d'être vraiment bref dans vos réponses parce que nous sommes vraiment à la fin de notre émission. J'ai à Mokolo, pourquoi selon vous, ces compagnies refusent d'inclure cette taxe dans les billets d'avion?
Bon, je suis dit, j'estime que ça va, en tout cas, leur nécessiter des frais supplémentaires dans la gestion de ces taxes-là, d'incorporation de ces taxes dans les billets d'avion. Mais je voudrais, au-delà de cette question-là, me poser la question, pourquoi une taxe spéciale? Et pourtant, nous avons la régie des voies maritimes, la régie des voies fluviales, qui aussi travaille pour pouvoir baliser la voie maritime ou fluviale. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas aussi une taxe dans ce sens-là? Il va falloir que la RVA, qui fait des recettes depuis très très longtemps, puisse avec toutes ces recettes-là pouvoir réinvestir. Et quand on a créé cette taxe-là spéciale, et les passagers ont accepté de payer, mais pourquoi est-ce que la RVA ne peut pas gérer ça elle-même? Et imposer. On ne peut pas imposer, donc les sociétés privées ne sont pas en tout cas des compagnies de l'État à qui on doit. Ce sont des partenaires, il faut discuter avec eux, il faut les convaincre, et pas imposer. Et on impose, et en plus, on occasionne même les retards dans le décollage de l'avion, tout ça, les avions, on ne s'en fait pas, que ça fait en tout cas des ordres.
Mon fusier Mokolo Joachim Diana, on n'impose pas des taxes aux compagnies privées.
Non, mais écoutez, les compagnies privées, dans le moment où ils travaillent dans un pays où il y a une législation, ils doivent coopérer avec l'État congolais. Bon, c'est pour dire que, d'ailleurs, toutes les entreprises aériennes reconnaissent la nécessité de cette taxe-là. Et ils savent que, ailleurs, dans d'autres pays, ça se fait aussi. Mais le principe qui a mis à la façon de payer, ça veut dire tout ce qui nous arrive de voyager. Moi, ce que c'est que le premier jour, j'allais rater l'avion, j'arrive à l'avion, on me dit non, et il faut payer 10 dollars. J'ai dit 10 dollars, parce qu'on dit non, c'est heureusement, je suis dans ma poche, j'allais à Goma, j'avais 10 dollars. Sinon, j'aurais raté mon avion. Il y en a beaucoup d'autres qui sont dans ce cas qui ne savent pas qu'il y a une telle taxe qu'il faut payer au moment où vous arrivez à l'aéroport. Alors,
Donc, lorsqu'on décide de le mettre dans le billet, je crois que ça facilite la tâche à tout le monde, et aux entreprises aériennes, et aux passagers. Parce que lorsque les gens montent dans l'avion, vous voyez quelqu'un monter pour vérifier si tout le monde qui est là, chacun a payé son IDF et tout ça, ça prend toujours du temps. Et j'ai entendu un responsable d'une compagnie aérienne dire qu'on va nous servir à blanc. Mais ce n'est pas de l'argent qu'on paiera. Ils font payer leur billet à $500 et qu'on leur dit d'ajouter $550.
Automatiquement, le prix du billet augmente.
Mais non, le passager sait que ce sont les $50. Mais puis, que le passager paye à part ou qu'il paye dans le billet, et c'est la même chose. Il suffit que le passager sache que son billet c'est 500, mais à côté il y a l'IDF.
C'est un travail de vulgarisation.
Oui, mais justement, c'est ça le travail de vulgarisation du côté du gouvernement, informer les gens que les gens arrivent. Donc, ça faciliterait le travail. Mais pour le moment, ça sera toujours comme ça, les gens entrent dans l'avion, on doit vérifier qui a payé, qui n'a pas payé, et les passagers prennent du retard, et l'avion prend du retard.
Merci Joachim. Martial Moukeba, vous êtes journaliste et chef de programme de la radio-télévision Mongano de Bénin au Nord Kivu. Comment vous analysez cette guerre entre la RVA et les compagnies aériennes internationales?
Il ne suffit pas de créer une taxe et commencer à demander l'argent. Il faut créer une taxe et après faire la vulgarisation, faire une campagne, que les gens comprennent qu'il y a une nouvelle taxe et qu'il faut la payer. Mais aussi, par rapport à la RVA, je crois que lorsqu'on demande des taxes, il faut voir à quoi sert ces taxes-là. Si ces vols internationaux décollent dans des aéroports où les pistes sont en mauvais état et qu'il y a des risques de crash et que ces compagnies se plaignent tout le temps, il est inutile de continuer à demander de l'argent. Mais aussi par rapport à ces compagnies d'aviation, moi je crois que lorsque ces compagnies continuent aussi à atterrir dans d'autres pays où il y a la législation et que ces compagnies, ces aviateurs, paient des taxes, il faut autant les payer en République démocratique du Congo.
Merci, Martial Moukeba, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Roux qui était à la réalisation. La technique était assurée par Jean-Claude Nfiala et Kelly vous a présenté cette émission. Retrouvez-la sur notre site internet www.radioocapi.net, bon tout le programme sur la fréquence de la paix.
Oh, 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 oh